Elles vont de l'expérience vécue. Ça a été ça, l'acte fondateur de la philosophie anglaise. Ça a été, je dis un mot, d'où leur attachement au langage dès le début de leur philosophie, je dis un mot, à quelle expérience vécue puis-je exhiber, puis-je montrer, comme correspondant à ce mot. Alors on leur dit, je, qu'est-ce que vous voulez? Expliquez-moi, montrez-moi. Alors évidemment, Kant le dirait lui-même. Ce qui correspond à je ne peut pas être montré. Bon, les Anglais disent, bon d'accord, ça ne vous intéresse pas. Évidemment, ça coupe court. Vous avez remarqué qu'il n'y a pas de discussion. Mais pour le moi, ils sont encore plus malins. C'est pas qu'ils disent c'est un mot vide de sens. Ils disent, ah oui, moi, oui, c'est ça, on peut dire moi. Seulement voilà, moi, c'est une habitude. C'est une habitude. C'est une coutume. Vous vous rendez compte comme opération, s'ils sont contrariants, ce qui pour les Anglais et un autre qui pour les Allemands est le fondement le plus sacré. C'est là que les Anglais disent, oh oui, c'est une manière de parler, oui. C'est le moi, c'est oui, c'est une collection d'états qui sont associés les uns aux autres d'après certaines règles. Bon ben oui, on peut toujours dire moi, mais si on n'y voit pas autre chose qu'une habitude. Alors c'est très très curieux ça. C'est une manière que la philosophie française n'a jamais dit. Jamais, jamais. Jamais, elle n'a pu se faire d'où le plus gai dans les colloques. C'est la rencontre entre un philosophe français et un philosophe anglais. C'est ça, alors les philosophes anglais, ils sont passés maîtres dans l'art. Qu'est-ce que vous venez de dire? Ça ne me dit rien, ça ne me dit rien. Mais ce que vous dites, c'est des non-sens. Alors il y a même très vexant, complètement des non-sens. C'est leur argument, tandis que ce n'est pas un argument allemand ni français, c'est un non-sens. Les Français ou les Allemands, ils ont d'autres arguments. Ça va. Tu te contredis. Ça, c'est un argument français. Les Allemands, c'est pas ça. Ils auraient d'autres arguments. Qu'est-ce qu'ils auraient? Je sais pas bien. Tu te contredis, ça, c'est pas un grand argument français, c'est signé. Tandis que dire, ce que vous dites est un non-sens, c'est pas la même chose. Hein. Il y a des caractéristiques nationales des philosophes. C'est très, très curieux. Et tout ça, je disais ça pourquoi, je sais plus. Ah oui, alors l'ouvert, moi je crois que l'ouvert, il n'y a pas de moi au niveau de l'ouvert. L'ouvert implique la, vraiment la dissolution du moi. Ouais, alors ce qu'on peut appeler le moi ouvert, c'est le moi qui souvent lâche ses singularités, donc il en meurt. C'est absolument comme une fleur, comme une graine, hein, quand elle lâche ses spores. Et voilà, oui, je voulais dire, c'est ça que je voulais dire. Nous sommes des graines, hein, nous sommes des graines, pleines de spores. Alors, dans les bons moments, on s'ouvre, c'est ça l'ouvert.
Maintenant, moi, et... je suis désolé, moi je l'entends autrement. Hein, si
ah d'accord, tu l'entends autrement.
Bon, j'ai une cliente, quand tu l'as fait une fois l'année dernière, en tant qu'alpide, pas ouvert en tant que porte, hein, qui se rouvre vers le monde et qui sera ouvert pour le monde. Mais comme, disons, comme un paradoxe, on ne trouve pas qu'il est limpide. Hein, pas fermé.
Si tu veux. Ouais. Hein. Mais on peut y joindre autre chose pour varier un peu. Hein. Bon. On éclate. Alors en effet, qu'est-ce que ça voudrait dire, s'éclater? Le moi qui s'éclate. Alors sûrement il s'éclate par de très mauvais moyens, parce qu'il n'y a qu'une manière de s'éclater, qui est la philosophie. Certaines singularités de Foucault parlent dans ce que je vous dis, et même si ça se mélange à une autre singularité, ça fait rien. Mais enfin, avance. Alors c'est tout ce que je voulais dire sur les conditions pour trouver un peu de concret dans ce que je dis, parce que ça risque de pas s'arranger ensuite. Quoi, hein? Je ne sais pas. Alors, du coup, peut-être est-ce que ne fera plus difficulté à un point important, qui est, je crois, la nécessité de distinguer au niveau de la terminologie deux termes que vous trouvez assez fréquemment chez Foucault. Ces deux termes, c'est d'une part le dehors et d'autre part l'extérieur ou l'extériorité. Je voudrais dire à ce niveau, jamais Foucault ne donne de définition rigoureuse. C'est donc nous, en tant que lecteurs, qui avons à voir comment ces deux termes se répartissent. Car j'ai le vif sentiment, et ça va être décisif pour tout ce qui nous reste à faire, j'ai le vif sentiment que ces deux termes ne se valent pas, et que Foucault ne les emploie pas en un sens identique. Quand il nous parle d'extérieur, il s'agit de quoi? Je crois que le mot extérieur ou extériorité chez lui renvoie toujours à des formes. À la fois, il y a des formes d'extériorité et il y a extériorité des formes, extériorité entre les formes. Les formes sont extérieures les unes aux autres. Et en même temps, chaque forme est une forme d'extériorité. Par exemple, Archéologie du savoir, page 158-161. Foucault explique en quel sens l'histoire est forme systématique d'extériorité. Forme d'extériorité. Qu'est-ce que ça veut dire, forme d'extériorité? Pour Foucault, et c'est un des points originaux de sa pensée, toute forme est d'extériorité. Mais ça veut dire quoi, ça? Toute forme est d'extériorité. Ça veut dire qu'il n'y a pas, comme chez Kant, qui distingue une forme d'extériorité, l'espace, et une forme d'intériorité, le temps. Chez Foucault, il n'y a pas de forme d'intériorité. Toute forme est d'extériorité. Mais pourquoi? Qu'est-ce que c'est que les formes? On l'a vu, c'est la lumière comme forme du visible, le langage comme forme de l'énoncé. Bien. En quel sens ce sont des formes d'extériorité? C'est parce que aucune forme ne contient ce dont elle est la forme. En sens, ce ne sont pas des formes d'intériorité. Le rôle de la forme, c'est ceci, c'est que ce qu'elle informe, ce à quoi elle renvoie, se disperse ou se dissémine. Je suis forcé de dire « en elle ». En effet, il faut bien parler, ça devient tellement compliqué. Si les formes sont toujours d'extériorité, c'est parce que ce à quoi elles renvoient n'existe que comme dispersé, disséminé. Sous cette forme. La forme est d'extériorité parce qu'elle est fondamentalement de dispersion et de dissémination. Exemple. Le langage comme forme contient les phrases et les propositions et les mots. contient les mots, les phrases et les propositions. Ça oui. Mais il ne contient pas les énoncés. Foucault ne dit jamais le langage contient les énoncés. Il dit toujours les énoncés se disséminent, se dispersent dans le langage. En d'autres termes, le langage, c'est la forme d'intériorité des mots, phrases et propositions, mais ce n'est pas la forme d'intériorité des énoncés. C'est une forme d'extériorité par rapport aux énoncés, car c'est dans le langage, ou c'est sous le langage, que les énoncés se dispersent, se disséminent. Et il appartient à l'essence de l'énoncé d'être dispersé et disséminé. De même, la lumière peut être dite contenir. Les choses, les qualités, les états de choses. Mais elle ne contient pas les visibilités. On a vu la différence entre les visibilités, les choses et les états de choses, etc. Elle ne contient pas les visibilités. Les visibilités sont, nous dit Foucault, une lumière seconde, faite de miroitements, de reflets, etc. qui n'existe que comme dispersée sous la lumière première. C'est la conception goethéenne à l'état pur. En d'autres termes, la lumière est une forme de dispersion, de dissémination, et par là, une forme d'extériorité. Donc, pour Foucault, toute forme sera une forme sous laquelle se disperse ou se dissémine ce qu'elle conditionne. Vous voyez, d'où cet emploi du mot extériorité lié à la forme. J'ajoute, les formes ne sont pas seulement des formes d'extériorité, mais il y a extériorité entre les formes. Les formes ne sont pas intérieures les unes aux autres, mais la forme du visible est extérieure à la forme de l'énonçable. Parler et voir diffèrent en nature, il y a une béance entre les deux, il y a un hiatus entre les deux, bref, les deux formes sont extérieures. Voilà. Ça nous permettrait de fixer l'emploi du mot extérieur. Il faudrait dire que je vois à l'extérieur, je parle à l'extérieur, et entre voir et parler, il y a extériorité. Que toute forme soit d'extériorité, Foucault le résume en disant l'histoire étant fondamentalement histoire des formes, l'histoire est la forme systématique de l'extériorité. Voilà pour l'extériorité. Vous rencontrez un mot, un autre mot chez Foucault qui est le dehors. Ce mot est emprunté à Blanchot. Il n'est pas sans rapport avec ce que Heidegger, après Rilke, appelait l'ouvert, avec un grand O. Il est bon de remarquer pour nous qu'un philosophe français, à la même époque que Heidegger, développait fondamentalement thème de Louvert, c'est Bergson. Et s'il y avait une comparaison possible entre Heidegger et Bergson, je crois que ce serait à ce niveau. La conception de Louvert chez les deux. En tout cas, chez Foucault, il retient le thème du dehors, non pas celui de Louvert, mais encore une fois, ce sont deux thèmes très voisins. Et ce qui me soucie, c'est la différence entre le dehors et l'extérieur chez Foucault. Par exemple, il nous dira, il intitulera un article en hommage à Blanchot, il l'intitulera « La pensée du dehors ». Et vous sentez tout de suite le thème de la pensée du dehors. Il n'y a pas besoin de lire l'article au point où nous en sommes, pas encore besoin. Vous pressentez tout de suite que ça va être un texte tentant d'expliquer que la pensée ne se définit en rien par une intériorité, mais que la pensée n'existe que dans un rapport avec le dehors, des majuscules. La pensée du dehors. Bon. Or, je dis que le dehors, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on doit le considérer comme un simple synonyme de extériorité? Pas du tout, et ça va être décisif pour tout ce qui nous reste à suivre. Je dis en premier lieu que, il me semble, après tous les emplois du mot dehors chez Foucault, que le dehors concerne non plus la forme, l'extériorité concerne les formes, le dehors ne concerne plus la forme, mais il concerne les forces. Sous quel aspect? Les forces viennent du dehors. Non seulement elles viennent du dehors, mais elles entrent en rapport les unes avec les autres du dehors. Le dehors est l'élément de la force, alors que l'extérieur est la substance de la forme. C'est l'élément de la force. Une force vient toujours du dehors. Une force en affecte toujours une autre ou est affectée par elle du dehors. Les forces n'ont pas d'autre élément que le dehors. Les forces n'ont que du dehors. Il n'y a pas d'intériorité de la force. Peut-être qu'il y a une intériorisation de la force par après, dans un parcours très complexe, mais il n'y a pas d'intériorité de la force. Mais, pour désigner cette non-intériorité de la force, Foucault se servira du mot « le dehors ». Si bien que qu'est-ce que c'est que ce dehors qui ne se confond pas avec l'extériorité des formes? C'est là où ça se complique un peu. Car je peux dire « le dehors », car je peux dire en première approximation « le dehors ». Qualifie le rapport des forces, le rapport d'une force avec une autre force. Ce qui revient à dire, encore une fois, une force en affecte d'autres du dehors, et elle est affectée par d'autres du dehors. C'est pas faux, on va voir que c'est insuffisant. Si j'en reste déjà à ce niveau, je peux dire quelque chose. Le pouvoir vient du dehors, et il retourne au dehors. Je ne confondrai pas le dehors avec le monde extérieur. Là, c'est une déclaration solennelle, puisque de séance en séance, à partir de maintenant, on sera amené à creuser cette idée. Que le dehors ne se confond avec aucune extériorité. S'il fallait trouver à tout prix une formule pour se rappeler, ne serait-ce que pour se rappeler, je dirais que le dehors est plus lointain que tout monde extérieur. La forme d'extériorité désigne la dissémination ou la dispersion chez Foucault. mais le dehors exprime le lointain pur. Le lointain plus lointain que tout monde extérieur, cela s'appellera le dehors. Si vous me dites, mais qu'est-ce que c'est que ça? Pour le moment, on n'en sait absolument rien. Qu'est-ce que Foucault va faire? Qu'est-ce qu'il va, comment il va se servir de cette notion, le dehors? J'essaie juste de la situer, quoi. De la situer dans une carte. Le dehors est plus lointain que tout monde extérieur. Si bien que je ne pourrais pas dire d'un monde extérieur quelconque ou d'une forme d'extériorité quelconque, je ne pourrais pas dire c'est le dehors. Le dehors, il sera au-delà de toute extériorité. Plus loin que toute extériorité, il y a le dehors. Ça devient mystérieux, c'était déjà mystérieux le dehors chez Blanchot. Si l'on ne part pas de cela, de toute manière, on ne pourra pas comprendre. Mais je dis bien qu'il ne suffit pas de dire ça pour comprendre. Je dis juste que l'exigence du dehors, c'est d'être plus lointain que tout monde extérieur ou que toute forme d'extériorité. Bien, mais alors, le rapport de force, où les forces viennent toujours du dehors et s'affectent les unes les autres du dehors, on a vu ce que c'était. Il s'exprime dans un diagramme. Vous vous rappelez, le diagramme, c'est l'exposition d'un rapport de force correspondant à une formation stratifiée. Je dirais déjà que si les formes stratifiées sont des formes d'extériorité, le diagramme, lui, plonge dans le dehors, le rapport de force. Je dirais que le rapport de force, il est le dehors d'une formation stratifiée. Il est le dehors d'une formation historique. Je veux dire, une formation historique n'a rien au dehors d'elle. Elle n'a rien non plus en dessous d'elle. Là, il faut prendre beaucoup de précautions. Elle n'a rien en dessous, elle n'a rien en dehors. Pourquoi ? Elle est elle-même forme d'extériorité. Comment une forme d'extériorité aurait-elle quelque chose d'extérieur ? Elle n'a rien en dehors, mais elle a un dehors. Le dehors de la formation, c'est l'ensemble des rapports de force qui régissent cette formation, c'est-à-dire qui s'incarnent en elle. L'ensemble des rapports de force qui s'incarnent, qui s'actualisent dans une formation historique, par exemple le diagramme disciplinaire, qui s'actualise dans les sociétés modernes, dans les formations modernes, eh bien, est tel que ce diagramme, c'est le dehors de la formation. Il n'est pas en dehors de la formation. Vous voyez que je sauve mon immanence. Il n'est surtout pas en dehors de la formation, mais il constitue lui-même le dehors de la formation. Donc le diagramme plonge dans le dehors. Voyons de plus près. Ça va peut-être nous faire avancer dans ces couches du dehors. Un diagramme, c'est-à-dire une exposition de rapport de force. Par exemple, le diagramme de nos formations modernes, le diagramme disciplinaire. On a vu, et ça j'ai prévenu, que des diagrammes, il y en avait autant qu'on voulait, qu'il ne fallait pas se laisser prendre au texte de Foucault, qui parle du diagramme comme réservé aux sociétés disciplinaires. Il y a autant de diagrammes qu'on veut. Je vous rappelle que dans nos analyses que j'aurais voulu concrètes, on a vu plusieurs diagrammes. On a même inventé, à nos risques et périls, un diagramme des sociétés primitives. C'est les rapports de force tels qu'ils sont présentés dans les réseaux d'alliances. Bon, les alliances des sociétés primitives, le réseau d'alliances des sociétés primitives, ce serait un diagramme. Ensuite, j'ai annoncé que Foucault, dans ses derniers livres, découvrait un diagramme grec. Le diagramme grec, c'est bizarrement, à savoir les rapports de force. Donc, les formes de la cité grecque vont dépendre, vont découler. C'est, selon Foucault, rapport agonistique, c'est-à-dire rapport de rivalité entre agents libres. C'est un diagramme de pouvoir. En dépend d'une certaine manière les formes de la cité grecque. Il y a un diagramme féodal. Il y a un diagramme de souveraineté, celui-là on l'a analysé. Il y a un diagramme de discipline. On a vu, c'est celui qui se définit, imposer une tâche quelconque à des multiplicités peu étendues et gérer la vie dans des multiplicités étendues. C'est un diagramme de force. En découlent nos sociétés modernes, dites sociétés disciplinaires, par opposition aux sociétés de souveraineté. Je dirais les sociétés disciplinaires en Europe. En Europe, les sociétés disciplinaires ont succédé aux sociétés de souveraineté, la charnière s'établissant autour de Napoléon. Et le passage des sociétés de souveraineté et des sociétés de discipline, c'est-à-dire la mutation diagrammatique, le changement de diagramme, se faisant autour de Napoléon. Bon. Si vous comprenez cela, je dirais que le diagramme, c'est-à-dire l'exposition des rapports de force, ne peut être saisi que dans un double rapport avec autre chose. D'une part, un diagramme de force est en rapport avec la formation stratifiée qui en découle, ou si vous préférez, dont il est la cause immanente. Ça ne fait pas tellement problème. Les rapports de force disciplinaires s'incarnent dans les institutions formelles, dans les institutions formalisées, qu'on a vues précédemment, prison, usine, école, etc. Donc, un diagramme de force est toujours en rapport avec la formation stratifiée qui en découle. Ou si vous préférez, la carte stratégique est toujours en rapport avec les archives qui en découlent. Bon. Mais en même temps, un diagramme est en rapport avec le diagramme précédent, par rapport auquel il marque une mutation. C'est-à-dire, il n'y a rien en dessous des strates, mais par-dessous les strates, un diagramme communique avec le diagramme précédent. Pourquoi ? Parce qu'on l'a vu, tout diagramme est une répartition de singularité. Répartition de singularité qui s'incarne dans la formation. Donc, il n'y a pas de premier diagramme, pas plus qu'il n'y a de dernier diagramme. Tout diagramme est toujours la mutation d'un diagramme précédent. C'est-à-dire, c'est un second coup de dé. Tout diagramme est par définition un second coup de dé, ou un troisième, ou un quatrième. Il n'y a pas de premier coup de dé. Il n'y a pas de premier diagramme. Si bien que tout diagramme est en rapport avec ce qui en découle, mais en rapport aussi avec le diagramme précédent, dont il opère la mutation, ou dont il opère, ou par rapport auquel il opère, une nouvelle répartition de points singuliers. Les rapports de force correspondant aux sociétés de souveraineté ne sont pas les mêmes que les rapports de force correspondant aux sociétés disciplinaires. Il faut assimiler les diagrammes à deux coups de dés qui donnent des solutions, qui donnent des combinaisons différentes. Alors peut-être est-ce que vous comprenez mieux. Tout diagramme vient du dehors. Tout diagramme vient du dehors, c'est-à-dire un diagramme ne découle pas du précédent, mais il est toujours en rapport avec le précédent, comme en état de, je vous disais, c'est pas un enchaînement des diagrammes, ils sont séparés les uns des autres par les formations que chacun détermine. Il n'y a pas d'enchaînement des diagrammes, mais il y a perpétuellement le second, le troisième diagramme, réenchaîne avec le second, du fait même qu'il opère une nouvelle répartition des singularités. Le quatrième réenchaîne avec le troisième. C'est une série de réenchaînements où les données sont comme relancées, un nouveau coup de dé. C'est des réenchaînements partiels, je disais. Le dehors, c'est l'élément des émissions de coup de dé. Le coup de dé vient du dehors. Donc, il ne suffit plus de dire, comme je disais au début, voilà les trois propositions fondamentales sur le dehors pour comprendre cette notion si étrange. Premièrement, le dehors est autre chose que tout monde extérieur et que toute forme d'extériorité. Le dehors est plus loin. Le dehors, c'est le lointain à l'état pur, c'est-à-dire un lointain qui ne peut jamais être approché. C'est pas un lointain relatif, c'est le lointain absolu. Donc, le dehors, c'est plus loin que tout monde extérieur. Deuxième proposition, le dehors, c'est l'élément des forces et de leurs rapports. La force vient du dehors, les forces s'affectent du dehors, et par là même, c'est l'élément du diagramme. Le diagramme est le dehors des formations historiques. Il n'est pas hors de la formation historique, il est le dehors de la formation historique qui lui correspond, ou qui découle de lui. Troisième proposition, le diagramme lui-même vient du dehors. Car le diagramme est multiple, chaque diagramme correspond à un tirage, donc chaque diagramme est un retirage, vu qu'il n'y a pas de premier diagramme, et les diagrammes ne cessent d'être brassés du dehors. Ah bon ? Pour le moment, c'est très abstrait, cette histoire. Mais rappelez-vous, j'ajoute, revenons à cet exemple toujours, émission de singularité, courbe intégrale qui passe au voisinage des singularités, des points singuliers. Vous vous rappelez, c'était notre fameux truc sur Azert, comme exemple d'énoncé. L'énoncé Azert, c'est-à-dire l'énoncé de la série des lettres, des singularités, dans l'ordre qu'elles prennent sur une machine à écrire française. A-Z-E-R-T. Foucault nous disait, A-Z-E-R-T ne sont pas un énoncé, mais A-Z-E-R-T est un énoncé quand j'énonce l'ordre des lettres sur une machine à écrire française. Et on avait vu que ça revenait exactement à dire l'émission des singularités, une émission de singularité, A-Z-E-R-T, n'est pas un énoncé. Mais en revanche, la courbe qui passe à leur voisinage est un énoncé. Et Foucault nous disait, dès lors, l'énoncé est toujours en rapport avec autre chose ou avec un dehors. Le dehors de l'énoncé, c'est les singularités par lesquelles l'énoncé passe. Donc, tous les diagrammes sont brassés par le dehors. Le dehors, c'est le brassage des diagrammes qui fait qu'un diagramme étant donné, il y aura toujours un autre diagramme en train de naître. Dans une espèce de mutationnisme qui est évident chez Foucault. Le diagramme est agité de mutations, les mutations viennent du dehors. Si bien que vous voyez, je ne peux plus maintenir, et c'est l'objet de ma troisième remarque, je ne peux plus maintenir l'identité de niveau dehors rapport de force. Mes trois remarques, c'est, premièrement, il y a identité de niveau entre extériorité et forme. Deuxième remarque, il y a identité de niveau entre le dehors et le rapport de force ou le diagramme. Troisième remarque, non, il faut ajouter que à certains égards, il n'y a pas identité de niveau, car les diagrammes sont tirés du dehors. Le dehors est, comment dire, encore plus lointain que le diagramme. Les diagrammes sont issus du dehors. Qu'est-ce que c'est ça? C'est pas une forme, vous vous rappelez. Les formes sont d'extériorité. Le dehors n'est pas une forme. C'est de lui que les singularités, quoi, émanent. Ah bon, mais alors, si les singularités, il faut dire dès lors, les singularités dépassent même les rapports de force. Ça va nous entraîner très loin, ça se complique, c'est bien. Jusqu'à maintenant, on avait identifié singularité et point rapport de force. On ne peut plus dire ça. On va dire, les singularités sont prises dans des rapports de force. Et ça va être beaucoup plus beau, encore plus beau. Les singularités sont prises dans des rapports de force au niveau des diagrammes. Mais en tant que pure émission, d'où sortent-elles? Elles sortent du dehors. Vous me direz, ça ne nous avance pas. C'est à force de répéter ce mot qu'on va peut-être en tirer quelque chose. Acceptons, faut aller tellement lentement. Elles sortent du dehors. C'est là, il y a une espèce de romantisme du dehors chez Foucault qui est très, très, très important, très essentiel, je crois. On ne s'étonnera pas que si voir et parler trouvent leur statut au niveau des formes d'extériorité, penser ne trouve pas son statut au niveau des formes d'extériorité. Penser trouve son statut au niveau et par rapport au dehors. Penser, c'est le rapport avec le dehors. Bon, mais qu'est-ce qu'il veut dire? Avant de savoir, je procède toujours avec la même méthode, avant de savoir ce que ça veut dire, nous avons tout intérêt à tirer une conséquence. Si tout ça veut dire quelque chose, on a une rude conséquence. C'est que les singularités excèdent les rapports de force. Les singularités entrent dans des rapports de force, oui, mais seulement dans la mesure où elles sont prises dans le diagramme, dans un diagramme. En tant qu'elles viennent du dehors, elles ne sont pas encore prises dans des rapports de force. Vous voyez, il y aurait donc trois stades. Émission de singularité pure. Deuxième stade, ces singularités sont prises dans des rapports de force. Troisième stade, elles sont incarnées, actualisées dans des formes d'extériorité. Ah oui, là c'est très clair ça. Oh, comme c'est clair. Hein? Très très clair. C'est rare que je sois aussi clair. Oh, oui. Bien. Vous voulez que je le répète? Vous regretterez. Vous regretterez ce court moment de clarté. Eh ben, la conséquence essentielle, c'est que quoi? que dans le diagramme, il va y avoir des drôles de singularités. Il va y avoir les singularités prises dans des rapports de force, oui. Ça va être pouvoir d'être affecté, pouvoir d'affecter. Pouvoir d'être affecté et pouvoir d'affecter, c'est pris dans des rapports de force. Mais il va y avoir des singularités, comment dirais-je, un peu flottantes. Des singularités qui témoignent d'un potentiel excédant le diagramme. En tant que le diagramme vient du dehors, il capte des singularités qu'il n'arrive pas à prendre dans ses rapports de force. Si bien qu'en fait, les forces ont non pas deux aspects, mais trois. On ne pouvait pas le dire avant. Premier aspect, pouvoir d'affecter. Deuxième aspect, pouvoir d'être affecté. Troisième aspect, pouvoir de résister. Résister, c'est le potentiel de la force, si vous voulez, en tant qu'elle ne se laisse pas épuiser par le diagramme. Ou bien, ce qui revient au même, c'est le potentiel de la singularité en tant qu'elle ne se laisse pas épuiser par un rapport de force donné dans le diagramme. Il y a des résistances. Il y a des résistances, et c'est le grand texte de Foucault, dans la volonté de savoir. 126-127, je vous le lis. Les rapports de pouvoir, alors bien plus, oui, les rapports de pouvoir ne peuvent exister qu'en fonction d'une multiplicité de points de résistance. Points de résistance. Il y a donc des singularités de pouvoir, soit de pouvoir être affecté, soit de pouvoir affecter, mais il y a aussi des singularités de résistance qui expliquent qu'en effet, le diagramme, il y a quelque chose qui excède le diagramme. Ils ne peuvent exister qu'en fonction d'une multiplicité de points de résistance. Ceux-ci jouent dans les relations de pouvoir le rôle d'adversaire, de cible, d'appui, de saillie pour une prise. Ces points de résistance sont présents partout dans le réseau de pouvoir. Il n'y a donc pas, par rapport au pouvoir, un lieu du grand refus, âme de la révolte, etc., mais des résistances, c'est-à-dire des singularités, qui sont des cas d'espèce. Et il nous donnera la liste. Les résistances sont l'autre terme dans les relations de pouvoir, c'est-à-dire sont le dehors des relations de pouvoir. Les relations de pouvoir sont le dehors des formations stratifiées, mais il y a encore un dehors des relations de pouvoir. Les relations de pouvoir sont l'autre terme. Non, pardon. Les résistances sont l'autre terme dans les relations de pouvoir. Surtout, il y aura un contresens dont vous vous gardez, que vous ne faites pas. Ce serait dire, ah ben oui, l'autre terme, c'est pouvoir être affecté. C'est l'autre terme par rapport à pouvoir affecter. Je ne dis pas ça du tout. Pouvoir être affecté n'est pas une résistance. Pouvoir être affecté et pouvoir affecter, c'est les deux aspects de toute relation de pouvoir. Mais il y a quelque chose d'autre que les relations de pouvoir, c'est la résistance au pouvoir. D'où vient la résistance au pouvoir? Ce serait inintelligible s'il n'y avait des singularités de résistance. Et les singularités de résistance ne peuvent se comprendre que si le diagramme n'enferme pas le dehors, mais est lui-même brassé par le dehors, si bien qu'il peut y avoir des points de résistance irréductibles au diagramme. Comprenez un peu, et ça va être là. Et Foucault suggérera, mais dans un texte qui ne fait pas partie d'un livre, il suggérera quelque chose qu'on aura à voir plus profondément, à savoir que la résistance, même en un sens, est première par rapport à ce à quoi elle résiste. la résistance première par rapport à ce à quoi elle résiste, thème qui me semble très très important, et qu'on aura... si bien que le rapport de pouvoir, finalement, c'est ce qui combat une résistance préalable. C'est ce qui s'efforce de vaincre une résistance préalable. La résistance n'est pas seconde, elle est première. Cette idée qui peut paraître très bizarre s'explique au moins abstraitement pour nous, si vous comprenez que les diagrammes ou les rapports de pouvoir n'étaient pas le dernier mot. Les diagrammes étaient, encore une fois, des répartitions de singularités en tant que ces singularités entraient dans les rapports de force. Mais en ce sens, tout diagramme émanait d'un dehors. Le dehors témoigne de son irréductibilité, c'est-à-dire de son irréductibilité au diagramme même, en inspirant dans chaque diagramme des points de résistance irréductibles. Comprenez ? Et perpétuellement, les diagrammes sont en mutation. Pourquoi ? Qu'est-ce que c'est la force qui oblige les diagrammes à muer, à entrer en mutation ? Il va de soi que si le diagramme n'était pas parsemé de points de résistance, il n'y aurait pas de mutation. C'est les points de résistance qui forcent et qui entraînent une mutation du diagramme, c'est-à-dire un second tirage qui vient du dehors, non moins que le précédent, et puis qui aura aussi ses points de résistance, et un troisième tirage, etc., qui va donc déterminer, enclencher.